Nous lisons Ésaïe 6, là où nous découvrons que Dieu est saint. L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait et la maison se remplissait de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Et nous nous arrêtons là. Dieu se révèle à Ésaïe dans l'année de la mort du roi Ozias. Et le contexte historique pour nous est quand même intéressant. Le roi Ozias y régnait 52 ans, un long règne. Mais pourtant, dans les dernières années de son règne, le roi avait commis un acte honteux. Le roi Ozias avait osé entrer dans le temple. Il avait osé défier les prêtres pour s'approcher de l'autel des parfums pour faire une offrande à Dieu. Un acte qui était réservé aux prêtres, aux hommes consacrés au service de Dieu. Mais le roi Ozias avait violé la sainteté du temple. Il avait violé la sainteté de l'office des prêtres. Par son acte, il avait porté atteinte à la sainteté de Dieu. Et pour cela, Dieu l'avait frappé de lèpre. Et le roi Ozias passait les dernières années de son règne en retraite, exclu de la vie publique. Et tout le monde disait sur lui, le roi est lépreux. Aujourd'hui, quand nos chefs font des bêtises, qu'est-ce que nous faisons? Nous, on se moque de nos chefs. On les rabaisse à notre niveau. On se dit, les grands ne sont pas plus grands que nous. Et ça, c'est vrai. Mais toujours dans notre façon de nous moquer de nos grands, quand même, nous sommes devenus cyniques. Nous sommes devenus ironiques. Et ce cynisme, cette ironie qui nous ronge, c'est quand même une attitude qui laisse des dégâts dans notre esprit. Parce qu'on arrive à ne plus croire à personne, à ne plus croire à rien. Et on ne sait plus où aller, et on ne sait plus qui suivre. On a perdu la boussole si on se moque trop. Mais alors, pour revenir à Ésaïe, quand même, lui, il va être prophète dans sa société qui était aussi corrompue que la nôtre et ne l'est aujourd'hui. Et ce prophète va être un pilier dans la société. Il va avoir des choses à dire à sa société. Lui, le prophète Ésaïe, il va dénoncer les autorités. Il va affronter les rois et les prêtres. Il va être là pendant la règne de 5 rois. Si on commence à lire le prophète, le livre du prophète nous commence par une liste des rois. Et pendant tous ces règnes, Ésaïe était là. Parce que Dieu l'avait mis là, comme prophète, pour montrer au peuple qu'il fallait se tourner vers Dieu. Et donc c'est ainsi que la vocation d'Ésaïe commence par cette grande vision, cette vision de la sainteté du temple violé par le roi. Et dans ce temple, Ésaïe voit le Dieu sur son trône, Dieu 3 fois saint. Et de la même façon aujourd'hui, il nous est important de nous rendre compte que Dieu est saint. Parce que c'est tout simplement ça notre boussole. Le cynisme, l'ironie, la moquerie, c'est un piège. Il faut sortir de ce piège qui nous rend impuissants, qui nous rend amers contre les autres quand on n'a pas de solution, qu'on ne trouve pas la voie. Mais c'est Dieu qui est saint, donc il montre la voie. Ce n'est pas un terme confortable, ça on va le voir. Mais se rendre compte que Dieu est saint, ça c'est notre salut, tout simplement. C'est notre boussole. Alors voilà l'introduction. Maintenant, regardons de plus près notre passage. Il y a dans cette vision de la présence glorieuse, la présence majestueuse de Dieu, il y a les séraphins et il y a Ésaïe. Et remarquons le contraste entre les deux. Les séraphins sont en train de louer Dieu, alors qu'Ésaïe, lui, il a peur. Il a très peur. Les séraphins, qui étaient-ils? Les séraphins, ce sont des anges de feu, flamboyants, brûlants, des êtres magnifiques, des créatures magnifiques. Mais là, en la présence de Dieu, par modestie, ils se couvrent les yeux pour ne pas regarder Dieu. Ils se couvrent les pieds pour ne pas se déplacer de leur propre volonté. Et ces séraphins flamboyants, ils passent leur temps à adorer Dieu, criant « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Saint, Saint, Saint. Ça veut dire parfaitement saint. Et à la base, ce mot veut dire à part, séparé. Peut-être vous connaissez ça. Mais une fois que l'on dit Dieu est saint, ce qualificatif n'appartient plus qu'à lui. Il n'y a que lui qui est saint. Et ce que Dieu touche, ce que Dieu inspire, ça devient saint par association à lui. Nous disons la Sainte Bible parce qu'elle est inspirée, les paroles sont inspirées à travers les âges par l'Esprit Saint. Saint, ça veut dire associé à Dieu, appartenant seulement à lui. tout cela pour dire que ces séraphins se consacrent à l'adoration de Dieu. Ils sont magnifiques, ils sont puissants, ils sont serviteurs de Dieu parce qu'ils reconnaissent que Dieu, il est infiniment plus grand, infiniment plus glorieux qu'eux. Et ces anges de feu nous montrent l'exemple. Ils montrent l'exemple à toute la création qui devrait adorer son Créateur de la même manière. Toute la création de Dieu doit reconnaître que c'est lui seul qui est à part, élevé, digne de louange, digne de l'adoration. Et nous les premiers, nous êtres humains les premiers, devrions reconnaître ça. Jésus nous l'a appris. Quand il nous apprend à prier, il dit, nous pouvons prier notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Nous prions Dieu Père, mais en même temps nous reconnaissons qui il est, le Dieu unique, le Dieu élevé, le Dieu digne de tout, parce qu'il a tout créé. L'adoration. Mais Ésaïe, il n'est pas dans l'adoration, n'est-ce pas? Lui, il a peur. Pour lui, cette vision de Dieu le remplit de peur. Les portes tremblent, il y a de la fumée partout. Et Ésaïe reste interdit. Il dit, malheur à moi. L'adoration, la peur devant Dieu qui est saint. Il faut se rendre compte que Dieu qui est saint, ça provoque un clivage. Se rendre compte que Dieu est, se rendre compte que Dieu est saint, soit on est dans l'adoration, soit on est dans la peur. Pour les uns, et ce sont, j'imagine, la plupart des gens qui nous entourent, peut-être c'est nous-mêmes, saint veut dire attention, ne touche pas. Ne t'approche pas. J'ai parlé avec quelqu'un qui avait un ami qui se préparait pour le baptême. Il lisait sa Bible dans le train. Et quelqu'un l'avait interpellé pour dire qu'il ne fallait pas lire la Bible dans le train parce que la Bible est sainte. Il y en a qui ont peur. Saint veut dire ne touche pas, ne t'approche pas. Mais pour les autres, saint veut dire alléluia. Je peux m'approcher. Je veux m'approcher. Mon Dieu, tu es mon Dieu. Quel merveilleux Dieu tu es. Et je veux m'approcher de toi. Je veux vivre dans ta présence. Je veux t'adorer. Je veux te servir. Vous voyez, le clivage, c'est un sujet sensible, mais hyper important. Soit on a peur devant Dieu, soit on l'adore. Il n'y a pas, en sa présence, il n'y a pas de chemin du milieu. Et ce qui arrive à Ésaïe nous montre que si nous avons peur devant Dieu, Dieu veut nous enlever cette peur. Si vous avez peur devant lui ce matin, Dieu veut vous enlever cette peur pour que vous deveniez adorateur, pour que vous deveniez serviteur en sa présence. Et c'est ce que nous allons voir. D'abord une question, pourquoi Ésaïe ressent-il tellement la peur? Tellement la peur en la présence de Dieu très froid saint. C'est marqué dans le verset 5. Ésaïe dit, malheur à moi. Je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Ésaïe, il a peur pour lui-même. Il a peur d'être foudroyé sur place. Parce qu'il ressent il voit la pureté de Dieu. Dieu est saint. Et cela veut dire qu'il est parfaitement pur. Et il ne supporte pas l'impureté. C'est le prophète Habacuc qui nous dit: Dieu, tes yeux sont trop purs pour voir le mal. Et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Pourquoi regarderais-tu les perfides et te tairais-tu quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui? Dieu est parfaitement pur parce qu'il est saint. Et Dieu est saint, ça veut dire qu'il est parfaitement droit. Bon, il est parfaitement juste. Parfaitement juste. Dieu condamne l'injustice, il condamne le renversement des valeurs. Une page plus tôt dans l'Ésaïe, chapitre 5, nous lisons ces versets qui parlent de la justice de Dieu. Ésaïe 5, verset 16. « L'Éternel des armées sera élevé par le jugement, et le Dieu saint sera sanctifié par la justice. Malheur à ceux qui tirent l'iniquité avec les cordes du vice, et le péché comme avec des traits d'un char. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. » Qui change les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui change l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Dieu est juste, parfaitement juste. Il est saint. Et Dieu est saint, cela veut dire qu'il est parfaitement droit dans ce qu'il fait. Tout ce que fait Dieu est droit. Et en fait, c'est Dieu qui fait tout. Ésaïe 40. C'est Dieu qui est assis au-dessus du cercle de la terre. Et ceux qui habitent la terre sont comme des sauterelles. Dieu étend les cieux comme une étoffe légère. Il les déploie comme une tente pour en faire sa demeure. À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble, dit le Saint. Levez vos yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? Donc on voit la création. Et on voit le ciel. C'est Dieu qui est saint, qui a fait tout ça. Et cette révélation, toute la révélation de la Bible nous montre que Dieu est parfaitement pur, il est parfaitement juste, parfaitement droit dans tout ce qu'il fait, parce qu'il est saint. Mais ça fait peur, n'est-ce pas? Et ça a fait peur à Ésaïe. Si Ésaïe a tellement peur en la présence de Dieu, s'il a les yeux fermés parce qu'il attend le coup de foudre, c'est parce qu'il sait qu'il est impur, lui. Quand même, on aurait dit qu'Ésaïe, c'est un homme de bien. Si tu es là parmi nous, il serait prédicateur. Nous, on aurait dit qu'il est un homme de bien. Mais quand même, Ésaïe se sentait condamné parce qu'il savait qu'il avait dit des choses qui n'étaient pas bonnes. Il savait qu'il était condamné parce que ses lèvres étaient en la présence de Dieu impur. Il avait écouté les choses qui n'étaient pas bonnes. Et dans l'entourage, personne ne l'aurait remarqué parce que tout le monde est comme ça. Mais là, dans le lieu très saint, là, dans la présence de Dieu, Ésaïe ressentait son impureté. Et bien sûr, ce n'est pas que lui qui doit se sentir impur en la présence de Dieu. Nous lisons ce message, le message d'Ésaïe, nous savons que nous sommes tous condamnés. Là, tout le monde est dénoncé. Et surtout ceux qui pensent être les meilleurs parmi nous. Vers la fin du livre d'Ésaïe, nous lisons « Nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille et nos cris nous emportent comme le vent. Il n'y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi. Aussi, Dieu, nous as-tu caché ta face et tu nous laisses périr par l'effet de nos crimes. Oui. Vous voyez le sentiment de la perdition. Si on ignore Dieu, dans notre ignorance, on ne sait plus quoi faire. Ou si nous faisons quelque chose, nous ne faisons que des bêtises. Mais c'est parce que nous ne laissons pas Dieu éclairer les choses dans notre vie. Nous ne permettons pas à Dieu de nous montrer ce qui ne va pas. Mais regardons ce qui arrive à Ésaïe. Maintenant, nous y arrivons à la bonne nouvelle. Versets 6 et 7, Ésaïe 6. L'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit « Ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » Ésaïe a laissé le séraphin lui toucher les lèvres avec cette pierre ardente, ce charbon pris de l'autel. Parce que dans le temple, il y a l'autel. Et l'autel, on se rappelle, c'est là où les offrandes à Dieu étaient brûlées. Quand le peuple confessait ses péchés, le peuple offrait à Dieu un sacrifice. C'était un sacrifice d'animal, d'un animal sans défaut, afin d'obtenir auprès de Dieu le pardon. Cela voulait dire, Dieu est saint, il est juste, il juge et condamne les péchés. Mais par ce sacrifice, c'était l'animal, l'offrande sans défaut qui portait la condamnation, et c'était le peuple qui obtenait le pardon. Ainsi, ce feu sur l'autel, c'est le feu du jugement de Dieu contre le péché. C'est le feu de Dieu qui est saint et qui accepte un sacrifice parfait pour pardonner un peuple perdu. Ce feu, c'est le feu du pardon, le feu de la purification. Et voilà comment, pour Ésaïe, quand cette pierre ardente lui touche les lèvres, son péché est effacé, il est expié. Et Ésaïe est pardonné, purifié. Mais reste dans ce passage un mystère, une question en suspens. J'ai dit, l'autel c'était pour les sacrifices, pour les offrandes. On ne voit pas de sacrifice sur cet autel. On peut se poser la question, quel est le sacrifice là dans la présence de Dieu? Plus tard, Ésaïe aura une prophétie, la prophétie que Stéphanie nous a lue tout à l'heure, la prophétie qui annonce que Dieu apporterait à son peuple le pardon parfait parce que l'homme parfait mourrait en sacrifice. Je me permets de lire encore juste quelques versets d'Ésaïe 53. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, comme dit brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Cette prophétie fut accomplie en Jésus par sa mort sur la croix et par sa résurrection. Et c'est en venant à Jésus que nous pouvons expérimenter le pardon de Dieu qu'Ésaïe vit là dans sa vision. Aujourd'hui, Dieu est toujours saint. Et il pardonne par Jésus-Christ. Mais cela, je dois le dire, ce n'est que le début. Retournons à la vision d'Ésaïe. L'ange lui touche les lèvres avec la pierre ardente et puis, chose merveilleuse, à ce moment-là, Ésaïe, il entend la voix de Dieu. Verset 8, « J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Tout de suite, il y a ce contact avec Dieu. Ésaïe entend la voix du Seigneur. Ésaïe, qui se doit condamner parce qu'il avait les lèvres impures, maintenant il peut s'adresser à Dieu. Et il est prêt à servir son Dieu, comme les séraphins le servent. Mais là, pour Ésaïe, sa mission sera de repartir, de redescendre sur terre, si on peut le dire comme ça, et de servir Dieu parmi son peuple. Et ce sera une mission très difficile. Et là, je voudrais soulever que là, Ésaïe expérimente ce que nous appelons la sanctification. La sanctification, c'est un autre grand thème. C'est une autre prédication, au moins une prédication. Mais je vais juste souligner quelque chose ici. Parce que c'est notre vie maintenant. La sanctification, c'est vivre dans l'attachement par la foi à Dieu. La sanctification, c'est avoir une vie façonnée par la sainteté de Dieu. La sanctification, on voit dans ce passage, c'est ce que Dieu fait pour nous. Comme il agit pour Ésaïe, là. Dieu se révèle à nous. Il s'est révélé à nous. Il nous parle aujourd'hui, j'espère, à travers son esprit, par son esprit. Et quand nous le prions et que nous confessons nos péchés, que nous mettons notre confiance entièrement en Jésus, en ce que Jésus a fait pour nous pardonner, et que nous, quand nous demandons à Dieu de régner dans notre cœur par Jésus et par l'Esprit de Jésus, Dieu nous pardonne, il nous purifie. Nous recevons ça par la foi. Et nous recevons ça par son esprit qui est en nous, que Dieu met en nous pour nous transformer, pour nous guider sur son chemin. Et c'est comme cela que Dieu nous sanctifie. Nous chantons parfois, n'est-ce pas, « Feu du fendeur, je n'ai qu'un désir, être saint, être saint. Mis à part pour toi, Seigneur, et la prière dans ce chant, c'est « Purifie mon cœur, ôte ma souillure et sanctifie-moi. Purifie mon cœur, lave mes péchés cachés. » La sanctification, c'est l'action de Dieu dans notre vie pour que nous puissions le servir dans le monde. Et je voudrais juste terminer en nous rappelant une exhortation dans le Nouveau Testament. dans le livre des Hébreux, chapitre 13, chapitre 12, pardon, chapitre 12, Hébreux, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ce verset nous rappelle que nous cheminons vers une rencontre avec Dieu. Ésaïe a eu cette vision au début de sa vocation, au début de son ministère. Par contre, nous cheminons vers la rencontre avec Dieu. Et comment être sûr que nous allons vivre dans sa présence éternellement? Comment être sûr que nous allons l'adorer avec les anges dans l'éternité? L'assurance vient dans la recherche, dans notre vie dès maintenant, de la recherche de la présence de Dieu. Je lis aussi verset 15. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Nous pouvons puiser quotidiennement dans la grâce de Dieu. Quotidiennement et sans doute encore plus. Sans doute il y a des saletés dans notre vie que Dieu doit nous enlever pour nous purifier. Sans doute il y a plus de choses dans notre vie que nous devons mettre à part pour lui. Je ne sais pas si vous vous préparez pour la brocante dans 15 jours. Vous allez mettre des choses à part pour vendre. Mais là, peut-être dans notre vie, il y a des choses qu'on peut mettre à part pour lui. On demande à Dieu de les utiliser parce que nous les consacrons à Dieu. Et surtout, c'est notre temps que nous pouvons consacrer à Dieu. Du temps à le prier, du temps à le méditer, à l'écouter. Donne à notre Dieu plus de place dans notre vie pour qu'il agisse en nous et avec nous. Le prédicateur écossais Oswald Chambers a dit une expression que vous avez entendue peut-être. Tout ce que je puis pour qu'il règne dans toute sa gloire. Tout pour qu'il règne. Je veux être tout à Dieu. Parce que Dieu est saint. Et ce n'est qu'en sa présence que nous pouvons vivre éternellement. Alors, je résume. C'est incontournable. Dieu est saint. Même si c'est un sujet qui fâche un peu, pour les uns, c'est incontournable. Parce que pour la vie, il n'y a pas d'autre boussole que de savoir que Dieu est saint. Il faut s'en rendre compte, surtout si nous nous sentons déboussolés. Tournons-nous vers lui. Ce n'est pas confortable, ça inspire la peur. Ça inspire la peur de son jugement. Mais là, Dieu, dans sa sainteté, a installé une porte, un chemin pour que nous puissions sortir de la peur de Dieu et vivre dans l'adoration de notre Dieu. Cette porte, c'est le pardon et la purification par la foi en Jésus-Christ qui a subi à notre place le jugement de Dieu. Et l'invitation est là de passer par cette porte. Je laisse encore une fois et pour terminer la parole à Ésaïe. Ésaïe 55, versets 6 et 7. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Prions quelques instants.